Europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour et bienvenue au Carrefour de l'Europe. Tel un météore, Matteo Renzi est arrivé au pouvoir en Italie à l'âge de 39 ans, ce qui est à Rome un véritable exploit. Auparavant, 5 ans durant à la tête de la mairie de Florence, il a eu le temps de tester sa méthode, la provocation et le pari du changement immédiat. Pragmatique, charismatique, le jeune Premier ministre est animé par une idée, envoyer à la casse la vieille Italie. Et en 2 ans, il a enchaîné les réformes, notamment sur le droit du travail, le divorce simplifié ou le PACS pour les couples homosexuels. Dimanche prochain, les Italiens vont dire si oui ou non ils soutiennent sa réforme constitutionnelle qui prévoit une quasi-abolition des pouvoirs du Sénat au profit des régions. Alors à plusieurs reprises, Matteo Renzi a expliqué qu'il démissionnerait si sa réforme était rejetée par les électeurs. Matteo Renzi, qui tout double, je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Giuliano D'Ampoli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du think tank Volta, qui est basé à Milan, et vous venez de publier chez Grasset Le Florentin ou l'art de gouverner selon Matteo Renzi. Mais alors, c'est beaucoup plus qu'un livre sur Matteo Renzi, c'est un livre sur la situation politique en Italie et sur l'Italie aujourd'hui. Vous êtes assez critique sur votre pays. Enfin, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Vous avez été aussi l'adjoint à la culture de Matteo Renzi lorsqu'il était maire de Florence et vous l'avez accompagné jusqu'à Rome où vous avez été son conseiller politique, en tout cas pendant quelques mois, quelques années. Bonjour Alberto Toscano.
Bonjour.
Peut-on présenter Alberto Toscano, écrivain, journaliste? Votre dernier livre, il est sorti il y a environ un an et demi, 2 ans. Sacrés Italiens chez Armand Collin. Et à Rome, nous rejoignons Eric Joseph. Bonjour, buongiorno Eric.
Buongiorno a voi. Bonjour.
Vous êtes le correspondant du quotidien Libération en Italie. Et votre dernier livre, eh bien, il parle d'Europe. C'est l'urgence européenne aux éditions Tadé. Je vous disais en introduction, Matteo Renzi est arrivé à la tête de l'Italie il y a un peu plus de 2 ans. Très exactement le 17 février 2014. Mais il n'est pas arrivé au pouvoir à la suite d'une élection, Giuliano D'Ampoli.
Bah, on arrive rarement au pouvoir en Italie à la suite d'élections, comme vous le savez. C'est plus byzantin et compliqué que ça d'habitude. Mais il faut dire que dans son cas, il y a eu quand même un vote des primaires où il a été plébiscité un an avant son
arrivée. Alors les primaires, on connaît ça en France.
Gouvernement,
hein.
Exactement, vous voyez ce que c'est. Et puis il y a eu, après quelques mois de gouvernement, un vote sanction qui a été le vote des élections européennes où le Parti démocrate, a récolté plus que 40% des voix, qui est le score le plus élevé récolté par un parti politique en Italie depuis 1957.
Oui, mais pour arriver au pouvoir, il a dû trahir un peu quelqu'un qui s'appelle Enrico Letta,
après,
qui était le Premier ministre. Il lui avait dit qu'il avait apporté tout son soutien, puis au dernier moment, tac.
L'Italie reste un système parlementaire, donc les gouvernements se forment à travers la formation d'une majorité à l'intérieur du Parlement. Les élections de 2013 n'avaient donné aucun résultat précis, c'est-à-dire le gouvernement Letta qui est sorti après quelques mois quand même de tractations compliquées après les élections de 2013 était un gouvernement de compromis où il y avait en partie le soutien de Berlusconi, après il est sorti, c'est une majorité assez variable. C'est un gouvernement qui était relativement immobile, mais avec de bonnes intentions. Hein. D'ailleurs, Enrico Letta, qui est aujourd'hui en France...
Il est à la tête de Sciences Po.
À la tête de Sciences Po International, enfin de l'école internationale de Sciences Po.
Et nous l'avons reçu longuement ici.
Exactement, est un homme politique de grande qualité. Mais effectivement, disons, ça n'a pas été un gouvernement qui avait une dynamique politique très forte derrière lui. Il était plutôt immobile. Il n'arrivait pas à porter à terme les réformes, il était très impopulaire. Et donc, bon, quand Renzi est arrivé à la tête du Parti démocrate à la suite de ses primaires où il a été plébiscité parce qu'il a fait 80% des suffrages de la gauche, il a tout de suite, après quelques semaines, effectivement, décidé d'imprimer un rythme différent à l'action du gouvernement.
Alors, on peut appeler ça un coup de poignard dans le dos d'Enrico Letta.
Ça a été un petit putsch, effectivement. Hein, on peut pas le nier.
Alberto Toscano, Matteo Renzi, c'est l'homme qui a tué Silvio Berlusconi.
Je politiquement parlant.
L'évolution de la politique italienne a vu la crise du berlusconisme et du mouvement créé par Berlusconi, Forza Italia, qui s'est mis en crise lui tout seul avec la gestion du pays dans la dernière partie de son propre pouvoir entre 2008 et 2011. Vous savez, pour interpréter la politique italienne, il faut considérer que les équipes marquent de but dans leur propre porte. C'est-à-dire, quelque part, il y a un penchant suicidaire dans certains partis. On l'a vu à droite et on l'a vu à gauche. Silvio Berlusconi a vu la désagrégation de sa majorité politique et il a dû démissionner en 2011 à un moment où la situation de l'Italie en Europe, le taux d'intérêt grimpait sur les bons du trésor italien, l'Italie, pays très endetté, avait besoin de placer ses bons du trésor à des taux convenables. Donc, une crise de la majorité du gouvernement de droite en 2011. Et ensuite, on a vu ce même penchant suicidaire aussi à gauche, et on le voit un peu aujourd'hui aussi, parce que une partie de la gauche italienne, à l'occasion de ce référendum, se bat corps et âme contre un gouvernement de centre-gauche.
Et là, en 2011, on voit Matteo Renzi qui apparaît sur la scène politique, et c'est un tourbillon.
C'est un tourbillon. Matteo Renzi a commis des erreurs lors de sa campagne politique, notamment le discours pour renouveler la vie politique italienne, ont été faits de façon parfois offensive vis-à-vis de ceux qui n'avaient pas la chance d'avoir 30 ou 40 ans. Hein? Faire des meetings à côté de vieux objets des années 40 ou 50 ou 60, comme si les hommes politiques pouvaient être jetés à la casse, exactement comme un vieux frigo, un vieux appareil télé, n'est pas la façon probablement la plus convenable de gérer un débat politique sous le renouvellement du pays. Ceci dit, Matteo Renzi a été parfaitement légitimé dans son pouvoir actuel, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que Giuliano disait tout à l'heure. Le système italien, un système parlementaire. Et dire que Renzi n'a pas été élu n'a aucun sens, parce qu'il a été élu par le Parlement. Et d'ailleurs, il n'est pas le premier chef du gouvernement italien, président du Conseil italien, qui n'a jamais été député. C'est par exemple Carlo Azeglio Ciampi, qui était d'ailleurs un excellent chef du gouvernement italien dans les années 90, n'avait pas été élu député au moment où il est devenu chef du gouvernement.
Et Éric Joseph, l'arrivée de Matteo Renzi, avec sa méthode, d'ailleurs, comment vous qualifieriez la méthode Renzi, dans la façon dont il arrive au pouvoir et puis la façon dont il gère après le pouvoir?
Mais Matteo Renzi est arrivé avec ce qui a toujours fait sa force, le dynamisme, la surprise, la provocation, la rupture.
La jeunesse aussi.
Il y a la jeunesse, mais il y a quelque chose un peu de Sarkozy première manière 2007, hein, le Sarkozy de l'ouverture, le Sarkozy qui brise les codes, qui surprend, qui est
un vibrionnant
politique et médiatique. Un leader très détonnant, surprenant. Et donc, c'est effectivement, ça a formidablement bien marché dans une Italie qui était bloquée, dans une classe politique incapable de se renouveler, dans des élections de 2013 qui ne donnent pas de majorité claire, dans un parti démocrate représenté à l'époque par Pierluigi Bersani, qui semblait effectivement incapable de se renouveler. Matteo Renzi a fait peser un vent nouveau de fraîcheur. Et puis surtout, il a décidé d'aller au-delà des familles politiques traditionnelles. Et ça, c'est une grande nouveauté, notamment pour la gauche. C'est l'idée de ne pas s'adresser uniquement aux électeurs de gauche, potentiellement de gauche, mais de parler à tous les Italiens. Et d'aller chercher également les voix d'électeurs du centre ou d'électeurs de droite, en pensant que désormais la structure de la vie politique italienne n'est plus uniquement sur des familles politiques, mais qu'il y a une volatilité de l'électorat, et donc il y a en quelque sorte une rencontre entre l'offre et la demande politique. Et de ce point de vue-là, effectivement, il a mis au rencard la vieille gauche, mais il a aussi un peu mis au rencard Berlusconi, qui avait utilisé lui aussi cette méthode.
Qui était aussi un peu la vieille droite des castes, d'ailleurs, Giuliano D'Ampoli. L'idée de Matteo Renzi, c'est de, en France, on dirait sortez les sortants, hein, c'est un peu ce qu'on dirait. En italien, on le dit autrement, mais c'est un peu l'idée.
Oui, d'ailleurs, je suis d'accord avec ce que disait Alberto Toscano, c'est-à-dire ça a été fait de façon brutale. Hein, ça a été présenté de façon brutale. Là, on l'appelle en Italie justement la rottamazione, qui est un terme qu'on utilisait pour les vieilles automobiles. Bon, ça ne s'appliquait pas à la population italienne, évidemment. C'était limité à la classe dirigeante, qui était une classe dirigeante effectivement plutôt gérontocratique et surtout plutôt bloquée. C'était toujours les mêmes. Vous connaissez un peu ça en France. Qui revenait d'un côté et de l'autre. Et on n'a pas toujours compris ça en France, par exemple, par rapport à Berlusconi lui-même.
Berlusconi qui est resté 20 ans au pouvoir.
Il est resté avec quelques phases d'opposition 20 ans au pouvoir, mais ce n'est pas spécialement parce que les Italiens étaient amoureux de lui. Il y a eu un amour au début 94, quand Berlusconi a commencé son aventure politique. Il y a sûrement eu un emballement assez massif par rapport à lui. Mais après, il a été au gouvernement, il a assez rapidement quand même déçu beaucoup d'attentes qui avaient été posées sur lui. Et il a continué à revenir, surtout par rejet d'une autre classe politique, qui était la classe politique de la gauche post-communiste, assez vieille aussi.
Vous dites assez, Pristine
Très triste d'ailleurs, oui, qui était programmatiquement basé sur le rejet, disons, de la postmodernité, si vous voulez. Hein, c'est une classe politique qui a son ascendance dans une figure historique de la gauche italienne qui s'appelait Enrico Berlinguer et qui a fait la théorie de quelque chose qu'il appelait la diversité. Alors, à la tombée des idéologies, du communisme, etc., on voyait déjà, bon, lui, c'était avant la chute du mur de Berlin, mais on comprenait déjà que ça, enfin, c'était en train de, plutôt d'aller sur le déclin. Il a sauvé l'identité de la gauche italienne en disant, bon, on n'est plus communiste, mais on reste différent, hein. On est différent par rapport à la vulgarité, par exemple, de la télévision commerciale que, justement, Berlusconi commençait à imposer en Italie. On est différent par rapport à la vulgarité commerciale. Mais Renzi, il casse tout ça. La première apparition télé de Renzi, c'est pas un journal télé ou une émotion politique, c'est il a 18 ans et il participe à un jeu télévisé où il fallait deviner le prix de...
Vous aviez peut-être ça en France aussi. On a eu ça aussi. Voilà.
Et alors déjà, sur la base de ce simple épisode-là, hein, c'est un jeune homme de 18 ans qui fait pas encore de politique, mais vous avez c'est une différence, si vous voulez, presque anthropologique. Hein,
Alors, pour mieux le comprendre, Matteo Renzi, je vous propose de l'écouter. C'est une intervention récente à propos de l'Europe et des réfugiés.
Noi siamo mentalmente, dopo questi anni, abituati a concepire l'Europa.
Nous sommes habitués, depuis toutes ces années, à concevoir l'Europe comme l'institution qui doit nous expliquer quoi faire. Mais chaque année, nous payons, nous donnons de l'argent et encore de l'argent. C'est juste, bien évidemment, je suis un européiste convaincu. Je ne souhaite pas faire la polémique avec l'Europe, mais je veux que la solidarité soit là tout le temps. Il n'est pas acceptable que la solidarité soit là au moment où nous devons donner de l'argent à ces pays qui traversent des périodes difficiles et eux ensuite qui ont signé des accords sur l'immigration avec notre argent, ils prétendent ériger des murs. Ils sont fous. Nous ne pouvons pas accepter de telles choses. Ma bataille pour l'Europe, ce n'est pas ma bataille personnelle. C'est la bataille de l'Italie pour affirmer une Europe plus juste, plus sociale et plus solidaire.
Abbiamo quindi confermato la nostra riserva.
On va parler de Matteo Renzi, de l'Europe, hein, un petit peu plus tard, mais c'était pour que vous entendiez le style, la présence, la faconde de Matteo Renzi. Giuliano Zampoli, je voudrais que vous nous racontiez l'épisode de la piétonisation de la place du Duomo. Ça, c'est à Florence. Avant d'être Premier ministre, il était maire de Florence. La place du Duomo, c'est un petit... On va dire que c'est un peu comme la place de la Concorde. C'est la place centrale de Florence. Il y avait des voitures tout autour et à un moment, il a dit, ben non, on va mettre... Et là, je voudrais que vous nous expliquiez comment il s'y est pris?
Ben, c'est l'inauguration de ce que j'ai appelé dans mon livre la méthode de l'annonce kamikaze, qui est une méthode intéressante parce que dans ce cas-là, il vient d'être élu maire. Il y a cette question de la place du Duomo, qui est une vieille question sur laquelle les partis florentins
s'entretuent depuis des années,
des décennies, pour comprendre est-ce qu'il faut qu'il y ait le tram qui arrive jusque-là, est-ce que ça doit être piéton ou pas. Bon, alors il dit dans un mois ce sera piéton. Et tous les parcours de bus, de tram, etc., hein, vont être révolutionnés sur la base de ça.
Et tout le monde dit c'est pas possible.
Et tout le monde dit il est fou, hein, il est complètement fou, il a pas du tout idée de ce qu'il dit, il fait de la propagande, etc. Et la raison pour laquelle il l'annonce avec une date butoir, ce n'est pas une question de communication, ce n'est pas seulement une question de communication, mais c'est une question interne de forcer l'intendance à suivre, hein, parce que s'il avait fait des réunions à l'intérieur de l'administration avec son adjoint au transport, à la circulation, etc., on lui aurait dit bon, on va faire une étude, ça va prendre 2 ans, etc. Et tandis que s'il fait une conférence de presse et il dit ça va être fait le 10 octobre, c'est un truc comme ça. Et alors là, l'administration, elle est paniquée, mais elle est forcée à réaliser le truc, parce que le maire, à la fin, il a investi tout son capital politique sur une chose qui semble impossible, mais qui va devoir être faite. Et donc, ça a été sa décision inaugurale comme maire de Florence, et ça a un peu inauguré une méthode, juste un peu kamikaze, qu'il a appliquée aussi après au niveau national quand il est devenu Premier ministre, par exemple, avec une mesure fiscale d'allègement de la fiscalité des revenus les plus bas de 80 euros.
Même chose,
et là aussi, sans consulter son administration, ou presque pas, il a dit, dans un mois, tous les revenus au-dessus sous de 1500 euros par mois auront 80 euros en plus dans leur feuille de paie. Et là, c'était la même méthode, hein, et ça a été fait aussi. Après, évidemment, c'est une méthode qui provoque aussi qui a aussi des aspects négatifs et des contre. Bon, ça marche pas toujours aussi bien, mais c'est un peu l'exemple de sa méthode.
Éric José, si vous deviez définir en quelques mots le renzisme, qu'est-ce que vous diriez?
Justement, c'est plus une méthode qu'une vision politique. Et c'est peut-être au bout de 2 ans, au bout de 1000 jours de gouvernement, un peu les limites du gouvernement de Matteo Renzi, du Giuliano Empoli, parlait effectivement de cette méthode de l'annonce kamikaze, cette volonté d'aller très vite. Il avait promis un programme, une réforme de l'Italie dans les 100 jours. Et il est beaucoup plus difficile de réformer un pays comme l'Italie, où on parlait de bureaucratie, d'une administration qui est difficile, avec des contre-pouvoirs régionaux, des contre-pouvoirs politiques. C'est beaucoup plus difficile, en quelque sorte, de violenter l'Italie, de la pousser à marche forcée vers les réformes, que de le faire dans une ville comme Florence, qui globalement est une ville assez riche, une ville avec une administration qui fonctionne. Et donc il se retrouve dans cette difficulté avec un petit peu, une quelque sorte, un manque de vision globale. La difficulté aujourd'hui dans un pays comme l'Italie, et c'est un problème qui se pose aussi aux autres pays européens, aux autres dirigeants européens, c'est d'avoir les instruments de la politique. Et la méthode de l'annonce kamikaze peut fonctionner quand on a véritablement la politique budgétaire, la politique monétaire, la politique commerciale, et quand les défis face auxquels on est confronté, eh bien, sont des défis nationaux. Or, on voit bien que, par exemple, pour la question des migrants, mais aussi la lutte contre le dumping fiscal, les pays, les nations, les États-nations, désormais, n'ont plus vraiment les leviers de pouvoir, et donc Matteo Renzi se trouve dans une grande difficulté. Donc je dirais qu'avant tout, le rencisme, c'est avant tout une méthode, la méthode de la rupture, d'aller vite, et d'un certain courage politique. Ça, il faut le reconnaître à Matteo Renzi, mais au niveau national, ça devient beaucoup, beaucoup plus difficile d'appliquer cette méthode qu'au niveau provincial ou municipal, comme il l'a fait à Florence.
Et évidemment, le vote du 4 décembre nous dira si les Italiens sont convaincus ou non par la méthode Renzi. On va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance des dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
rappel sur l'actualité.
Cruzamento d'Europa.
Rescrucia Europei.
Stavrodromi tis Evropis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Si vous nous rejoignez, nous consacrons ce Carrefour de l'Europe au plus jeune Premier ministre que l'Italie ait jamais connu, Matteo Renzi, qui, tel un météore, est arrivé au pouvoir à l'âge de 39 ans. Pragmatique, charismatique, Matteo Renzi a en 2 ans bousculé l'Italie. Il a enchaîné les réformes, notamment sur le droit du travail, le divorce simplifié ou le Pax pour les couples homosexuels. Dimanche prochain, les Italiens vont dire si oui ou non ils soutiennent sa réforme constitutionnelle qui prévoit une quasi-abolition des pouvoirs du Sénat au profit des régions. Plusieurs reprises, Matteo Renzi a expliqué qu'il démissionnerait si sa réforme était rejetée par les électeurs. Matteo Renzi quitte ou double, je vous représente les invités qui ont pris place autour des micros de Carrefour de l'Europe. Giuliano D'Ampoli, directeur du think tank Volta, qui vient de publier Le Florentin ou l'art de gouverner selon Matteo Renzi. C'est sorti il y a vraiment quelques semaines chez Grasset. Alberto Toscano, écrivain journaliste, son dernier livre un petit peu plus ancien mais toujours actuel, Sacrés Italiens, chez Armand Collin. Et à Rome, Eric Joseph, le correspondant du quotidien Libération. Son dernier livre ne parle pas directement de l'Italie, mais de l'Europe, l'urgence européenne aux éditions Tadé. Alors, dans la première partie de l'émission, nous sommes longuement attardés sur la méthode et sur le personnage Matteo Renzi. Son dernier pari, c'est ce référendum constitutionnel. Il est pour le moins risqué, mais on peut dire tout de même que, je pense que vous allez être d'accord autour de la table et à Rome, Matteo Renzi a changé l'Italie, Alberto Toscano, oui ou non?
Matteo Renzi a contribué à changer l'Italie et il y a tellement de choses à changer en Italie que cette contribution est seulement un début d'un premier pas. Parce que la situation du pays est encore très difficile, très fragile et d'ailleurs les conséquences d'un problème comme celui des migrations qui sont sur la table montrent à quel point l'Italie doit encore s'adapter à une réalité international très difficile pour elle. Et d'ailleurs, certaines réformes, même sur le plan intérieur, s'imposent et la relation entre une partie et l'autre de l'Italie et les problèmes de la lutte au crime organisé, les problèmes de la lutte à la corruption sont toujours des problèmes actuels. Ceci dit, Renzi a fait une première partie d'un chemin difficile et il faut, à mon avis, lui donner acte de ce travail qu'il a commencé à faire. D'ailleurs, son gouvernement est déjà le troisième en longévité de l'histoire de la République italienne.
Ah, ce n'est pas rien.
Et ce n'est pas rien. Donc, Renzi, comme a été dit tout à l'heure, et je suis d'accord avec Giuliano et avec Eric, a une méthode parfois brutale mais efficace. Dans le cas spécifique de cette réforme constitutionnelle, il a commis une erreur là-dessus, dans le sens qu'il a commencé la campagne en disant « si je perds, je m'en vais ». C'était transformer la signification d'un référendum, de l'objet du référendum, de la question qui est posée aux citoyens, à la personne qui pose cette question, c'est-à-dire de trop personnaliser l'enjeu électoral. Ensuite, il s'est rendu compte et il a changé cette, et il a dit que il faut quelque part réduire l'importance de sa propre personne et de son gouvernement à l'intérieur de ce débat et focaliser le débat sur la véritable question qui est posée aux citoyens. Est-ce que vous acceptez ou non la réforme de la Constitution? Et ça peut aider la cause du oui. Et aujourd'hui, on est dans un contexte où on voit Renzi avoir une réelle popularité dans le pays, mais en même temps faire quelque part l'unanimité contre lui et en dehors de son parti et même en dehors de sa majorité de son parti. Parce qu'une minorité du parti, les frondeurs du Partito Democratico, se bat pour le non avec un ensemble extrêmement hétérogène de forces politiques italiennes qui est capable de se rassembler sur un non, mais qui ne sera pas capable demain de se rassembler sur un oui, sur un programme de gouvernement. Renzi doit se mesurer avec une panoplie de populisme et d'intérêts qui se battent contre lui.
C'est toujours la difficulté du plan B. On a connu ça en France également. Alors, avant de... On a compris que la méthode Renzi lui a a généré beaucoup d'ennemis. Il a beaucoup d'ennemis, Matteo Renzi. Mais Giuliano De Ampoli, je voudrais que vous nous resituiez un petit peu l'enjeu et les objectifs de cette réforme constitutionnelle. Vous l'avez dit dans la première partie, le système italien est un système parlementaire. Il y a deux parlements qui ont des pouvoirs équivalents.
Oui, c'est un système qui naît au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans une Italie évidemment encore traumatisée par l'expérience du fascisme, un pays divisé d'ailleurs entre, disons, le parti catholique modéré de la démocratie chrétienne et un très fort, le plus important parti communiste de l'Europe occidentale. Et donc c'est une constitution de compromis qui a plutôt l'objectif d'inclure toutes les forces et de faire partager le pouvoir à toutes les forces politiques plutôt que de donner des instruments à un gouvernement pour pouvoir gouverner le pays. Hein. Et c'est d'ailleurs le chiffre que vous donnez Alberto Toscano là, à l'instant, le fait que le gouvernement Renzi soit déjà le troisième gouvernement le plus longtemps au pouvoir dans les 70 ans d'histoire de la République italienne, et il est resté que 1000 jours, donc ça fait 2 ans et demi, c'est pas 10 ans.
Et c'est pas Angela Merkel.
Voilà, et ça vous dit, on a eu plus que 60 gouvernements dans ces 70 ans, bon, c'est un système comme ça, très instable, qui est très difficile à gouverner. Le seul, d'ailleurs, toujours en Europe
de l'Ouest,
qui est deux chambres exactement avec les mêmes pouvoirs, qui les deux donnent la confiance, un vote de confiance au gouvernement, qui vote toutes les lois avec exactement les mêmes pouvoirs, etc. Alors, l'opération de réforme de la Constitution, c'est un lifting, hein, ça ne change pas les bases du système italien, qui reste un système parlementaire avec tout ce que ça implique, mais l'idée c'est de réduire le rôle du Sénat, d'en faire un Sénat qui ne donne pas plus la confiance au gouvernement, comme d'ailleurs c'est le cas en France et dans la majorité des autres pays, et qui a beaucoup moins de rôle aussi dans la formation des lois. Donc ça simplifie le processus de gouvernement et de législation en Italie. Et puis il y a d'autres questions qui sont liées au rôle des régions, ou à la répartition des pouvoirs à l'intérieur de l'État italien, etc. Bon, c'est une réforme importante. Ce n'est pas
la mère révolution. Des réformes.
Hein, ce n'est pas la révolution. Mais ça fait partie quand même. C'est une partie importante du projet de rénovation de Renzi.
Et Éric Joseph, Alberto Toscano l'expliquait. Matteo Renzi a dit à plusieurs reprises si le non l'emporte, eh bien moi je m'en vais et je quitte la politique. Est-ce qu'il y a là chez Matteo Renzi un péché d'orgueil?
Matteo Renzi a fait cette annonce notamment quand il avait encore une marge et que le oui était donné largement en tête dans les sondages. Les choses se sont retournées au cours de l'été en quelque sorte, notamment parce qu'il y a eu une coalition de ses opposants et désormais la situation est difficile. Pourquoi ? Parce que incontestablement Matteo Renzi est peut-être le président du Conseil qui a le plus réformé dans le cours des dernières années, peut-être même depuis 45 en Italie. Mais malgré tout, dans le même temps, il avait suscité tellement d'espoir. C'est-à-dire qu'il s'était présenté comme l'homme qui allait véritablement changer radicalement le pays en 100 jours. Alors, il a fait des réformes, il a fait le Jobs Act, il a redonné du pouvoir d'achat en donnant 80 euros aux Italiens les plus pauvres, il a mis en place un système de lutte contre la corruption, il a donné 500 euros aux jeunes de 18 ans, il a sanctuarisé le budget de la culture, il a, vous le disiez, introduit une sorte de Pax en Italie, ce qui est une véritable révolution.
Oui, le Vatican n'est pas loin.
Le Vatican n'est pas loin et d'autres gouvernements s'y étaient cassés les dents sur cette réforme. En même temps, le problème est que les gros problèmes de l'Italie restent, parce qu'effectivement on ne peut pas les changer si facilement, parce que je le disais avant, désormais les chefs de gouvernement n'ont plus véritablement les leviers politiques, et donc la croissance économique n'est pas vraiment repartie, on sera à moins d'1% cette année, le chômage reste encore très important, il y a un problème démographique, l'Italie a perdu 110 000 habitants l'an passé, et je pourrais continuer comme ça, la bureaucratie, la justice qui n'a pas véritablement été réformée, la présence de la criminalité organisée. Donc,
l'endettement du
pays. Il y a énormément de problèmes, et l'endettement du pays. Et donc, il y a énormément de problèmes qui, évidemment, n'ont pas été résolus et que aucun homme politique ne peut résoudre assez rapidement. Et donc, mais malgré tout, Matteo Renzi a créé énormément d'attentes et désormais il se retrouve avec cette coalition des opposants et une partie de ses soutiens, eh bien, ont commencé à voir les aspects, les manquements à ses promesses et aujourd'hui le nom est donné gagnant pour l'instant dans tous les sondages.
Carrefour de l'Europe, Matteo Renzi va-t-il survivre ou non à ce référendum constitutionnel qu'il a initié et qui se déroulera dimanche prochain, le 4 décembre. Nous sommes avec Giuliano D'Ampoli, directeur du think tank Volta, qui vient de publier Le Florentin, l'art de gouverner chez Matteo Renzi, chez Grasset, avec Alberto Toscano, journaliste et écrivain, et avec Eric Joseph, le correspondant de Libération en Italie. Alors avant de poursuivre, je vous invite à faire un détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Carole Lyon.
Bonjour Daniel.
Vous êtes à Milan pour Courrier International et vous avez été impressionné par une passion qui soudain a saisi les Italiens. Alors on connaît leur amour pour le sport et plus particulièrement pour le foot. Mais là il s'agit de toute autre chose. C'est comme si tous les Italiens étaient devenus des profs de droit constitutionnel.
Oui c'est ça exactement. En fait Courrier International publie cette semaine un article du journal Libero qui nous décrit avec beaucoup d'humour le niveau de confusion et d'absurdité qu'a atteint la situation en Italie à l'approche de ce référendum. En fait, tout à coup, explique le journal, c'est comme si tout le monde s'était mis à parler de constitution et de réforme, y compris au Café du Commerce, pour en dire à peu près tout et n'importe quoi. C'est bien simple, dit l'article, nous qui avions l'habitude de discuter football, donc d'avoir ce genre de conversation au café, nous voilà transformés en un peuple de constitutionnalistes de comptoir. Et il raconte une scène qui s'est passée dans un bistrot de la périphérie de Milan, et où l'on a atteint, dit-il, le comble du grotesque. Alors il décrit, il y a l'agent immobilier qui découpe des extraits de journal sur la navette parlementaire, le poissonnier qui parle aux pompistes du nombre de sénateurs, la coiffeuse qui s'inquiète pour le pouvoir de sa région. Bref, cette histoire de référendum est dans toutes les conversations, elle est constamment à la télé. Les librairies débordent de livres qui plaident soit pour le oui, soit pour le non. Et il dit même, tous les gastro-entérologues, les ophtalmologues, les profs d'université et les journalistes que compte ce pays auront bientôt écrit leur manifeste pour donner leur avis. À ce stade, conclut le journaliste, moi-même je n'y comprends plus rien. Et il ajoute, vivement le 4 décembre, qu'on en finisse.
Merci Carole, c'est un article à lire dans le dernier numéro de Courrier International, celui que l'on trouve en kiosque en ce moment. Alors Giuliano D'Ampoli, c'est la fièvre constitutionnaliste en Italie en ce moment, vous qui n'arrêtez pas de faire la navette entre Paris et Milan.
Bah, c'est une dérivation de la fièvre politique des Italiens. Les Italiens, évidemment, ont cette tendance. Enfin, ils discutent en général partout, soit de football, soit de politique.
Oui, les Italiens aiment bien parler, aiment bien discuter. Hein.
Et donc aujourd'hui, c'est le référendum qui est au centre de la vie politique du pays. D'ailleurs, c'est un caractère, à mon avis, un peu bizarre de la vie italienne. Je ne sais pas ce qu'en pense Alberto Toscano. C'est-à-dire que chez nous, on discute énormément de politique, on se passionne, c'est par rapport aux autres journaux internationaux, surtout de l'Europe du Nord, il y a une surexposition même des moindres caractères, figures politiques. Et puis en même temps, par rapport à d'autres pays, l'Italie est quand même un pays qui est beaucoup moins gouverné par l'État et la politique, c'est-à-dire où on essaie dans sa propre vie personnelle, et si on regarde par exemple l'économie italienne, qui est faite de petites entreprises qui contournent la politique et qu'on s'en fiche complètement, essayent de rester le plus loin possible, disons, de ça. À la fin, l'impact pratique sur la vie des gens de tout ça est encore relativement moindre. Donc on se passionne dans les cafés sur tout ça, c'est un grand spectacle, un grand argument de conversation et tout ça. Et puis chacun, à la fin, se fait un peu ses propres affaires et recommence sa vie de façon relative. Relativement sereine.
Alberto Toscano, ouais, l'Italie, les Italiens, terre de contraste.
Non, mais et moi, je ne m'attends pas que cet article ait été publié par Libero, qui est la quintessence, le quotidien quintessence du populisme de droite italien. Qu'est-ce qu'il y a de mal si les Italiens discutent de droit constitutionnel? Bien sûr que le pompiste n'est pas un professeur de droit constitutionnel, mais grâce à Dieu, même un pompiste, même une personne qui n'a pas étudié à l'université a envie aujourd'hui en Italie de parler de la réforme constitutionnelle. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Mais moi je trouve que
Nous, on proteste toujours parce qu'il y a comme un mur entre la société réelle et ses institutions. Aujourd'hui, dans cette Italie qui a envie de changer, il y a un débat sur la réforme constitutionnelle. Bien sûr, on dira aussi des bêtises. Et combien de bêtises on dit en politique. Mais si on arrive à consulter le peuple sur son avenir, on fait un pas en avant sur la construction d'une nouvelle relation entre opinion publique et classe politique. Et quelque part, on essaye de se battre contre l'un des dangers actuels, qui est justement le populisme. Dans toutes ses formes, à la fois celui du mouvement 5 étoiles en Italie, celui de la Ligue du Nord, un populisme d'extrême droite, qui justement a quelque chose à voir avec le quotidien libre.
Alors, Éric Joseph, vous l'évoquiez, les sondages sont un petit peu, évidemment, contradictoires. On a appris à se méfier des sondages depuis le Brexit, depuis l'élection de Donald Trump et depuis la primaire de la droite et du centre en France. Les sondages donnent plutôt un avantage au non, hein, c'est, semble-t-il, ce qui... donc, un rejet de la réforme constitutionnelle, c'est un petit peu la tendance. Avec, derrière, évidemment, le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo qui est en embuscade. C'est un peu ça, la situation. Éric Joseph.
Oui, effectivement, le référendum, c'est devenu un peu un plébiscite pour ou contre Matteo Renzi, hein, aussi parce que, on le disait avant, Matteo Renzi a en quelque sorte chargé la consultation d'un aspect très, très personnel. Mais c'est aussi, et ce qui est intéressant et ce qui joue dans la décision, je pense, de beaucoup d'Italiens, c'est de savoir qu'est-ce qui se passera après si le non l'emporte. Et effectivement, si le non devait l'emporter, ça serait une sorte de tremplin pour le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo, qui est régulièrement donné comme le second parti et le principal parti d'opposition. Il est autour de 27-30%. Et donc effectivement, ça va beaucoup jouer dans la décision de certains Italiens de savoir qu'est-ce qu'il se passera après le référendum du 4 décembre et donc si Matteo Renzi devait perdre. Je voulais juste un petit peu ajouter quelque chose, une réaction, en quelque sorte une réflexion sur par rapport à ce que disait Giuliano D'Empoli. Ce qui est très intéressant et ce que je dois dire, moi j'ai fait un peu d'enquête et je me demande d'une certaine manière si, somme toute, pour une partie de l'Italie, une partie des Italiens, je dis ça un peu de manière provocateur, mais si, somme toute, une partie des Italiens ne veulent pas d'un gouvernement stable. Si les Italiens, finalement, cette instabilité gouvernementale dans un pays où l'unité italienne a été tardive, où les régions sont importantes, où la société civile a cette importance, et est-ce que, somme toute, une partie de la décision pour ce référendum du 4 décembre ne sera pas animée par cette volonté de ne pas avoir un pouvoir central très fort.
Alors, Giuliano D'Empoli, j'ai envie de poursuivre la remarque d'Éric Joseph à Rome. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine ambiguïté des Italiens à l'égard de la modernisation de leur pays? À la fois, ils ont élu indirectement Matteo Renzi, et puis en même temps, il y a ces conservatismes qui restent profondément ancrés.
Oui, aucun doute, hein, parce que vous voyez, c'est des questions. Bon, c'est assez compliqué. Hein. L'Italie a été dans les 20 dernières années le laboratoire de tous les populismes. Hein. C'est assez extraordinaire parce que on a connu justement un rejet de la classe politique qui est très violent à partir du début des années 90, et puis toutes les formes de populisme qui ont explosé. On a eu le populisme régional de la Ligue du Nord, on a eu le populisme plutocratique qui est aujourd'hui aux honneurs de la politique globale avec Trump, mais on a eu Berlusconi d'abord. On a eu une sorte de populisme judiciaire avec des juges qui ont formé des partis politiques. On a le populisme pur aujourd'hui de Grillo, qui est un modèle que moi personnellement je trouve terrifiant, mais qui est quand même assez intéressant à étudier dans ses formes, parce que c'est quelque chose.
Il faut quand même en dire un mot de Beppe Grillo, qui est un comédien humoriste, qui a lancé un parti politique. il n'a pas vraiment de structure, tout fonctionne par Internet.
Le premier parti politique national.
Oui. C'est assez étrange.
Et ben oui, parce que en plus le slogan de ce parti politique, c'est un mot qu'on ne peut pas.
Mais allez-y quand même.
Bon, en italien, c'est vaffanculo. C'est et il y avait donc allez vous faire voir, disons, hein, de façon polie. Et c'est sur ça. Et sur cette énergie de rejet très violent de la politique et des classes politiques, qui aujourd'hui d'ailleurs traversent l'Europe et au-delà, que s'est construit cette force-là, avec des aspects novateurs aussi, notamment en ce qui concerne l'organisation sur Internet, etc. Mais bon, on va pas rentrer là-dedans. Et Renzi, à mon avis, l'aspect plus intéressant de Renzi, c'est que c'est un hybride, parce que il a un côté homme politique traditionnel qui vient d'un parti de la gauche modérée italienne traditionnelle, etc. Et puis il a un côté populiste où il a quand même exploité aussi, et justement Toscano le disait au début, ce discours de la mise à la casse de la classe dirigeante, etc. Il a puisé aussi dans cette même énergie qui est à la racine des populismes en Italie et au-delà.
Et juste une parenthèse en matière de communication, lui aussi, il est très moderne, il utilise beaucoup les réseaux
avec
sociaux.
Avec tous ces aspects-là.
Il tweet en permanence, il a pas loin de 3 millions de fans sur son compte Twitter, c'est important.
Il écoute RFI.
Il écoute RFI tous les dimanches surtout. Mais là...
Après la messe.
À mon avis, ce qui est intéressant dans l'expérience de Renzi, c'est qu'il a essayé d'utiliser cette énergie au lieu de la porter dans une direction xénophobe extrême, ce qui est le cas en Europe, dans beaucoup de cas pour le populisme.
Est-ce qu'il y a le cas du BPCO, du mouvement
sociale. C'est le cas, à mon avis, des autres forces populistes italiennes qui vont vers la fermeture, vers la sortie de l'Europe, vers vraiment quelque chose un mouvement de repli, hein, dans le meilleur des cas. Et pour essayer d'utiliser cette énergie pour aller dans un sens plutôt d'ouverture, de réforme pro-européen de façon très critique, comme on l'a vu, mais quand même dans un esprit qui se veut très pro-européen, etc. Alors c'est une alchimie qui est quand même très périlleuse et très difficile à maintenir dans le long terme.
D'autant plus qu'il s'est fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ennemis.
Et voilà, et ça implique aussi le front du non aujourd'hui, c'est en Italie un front d'une hétérogénéité absolument incroyable où il y a qui va de l'extrême droite à l'extrême gauche en passant par tous les mouvements populistes, régionalistes, Grillo, la Ligue du Nord, Berlusconi, la gauche, justement l'opposition du Parti démocrate.
On dirait les frondeurs du Parti démocrate.
Il y a de tout là-dedans, mais si on les somme tous ensemble, effectivement, il constitue peut-être la majorité de l'électorat italien. Ça, on va voir.
On verra ça le 4 décembre. Alors, si le oui l'emporte, évidemment, Matteo Renzi sera conforté, il reste au pouvoir et sa dynamique de modernisation va se poursuivre. Hein, Éric Joseph, c'est bien ça?
Oui, absolument. Si effectivement Matteo Renzi l'emporte, ce sera la seconde véritablement grande réforme de Matteo Renzi. La première, c'était le Jobs Act. Après, j'ai cité déjà toute une série de mesures de réforme qui avaient mises en œuvre. La réforme constitutionnelle sera véritablement le deuxième grand succès de Matteo Renzi s'il parvient à remporter donc le référendum du 4 décembre. Et véritablement, on peut imaginer que s'il gagne le 4 décembre, il va jusqu'au terme de la législature, jusqu'au terme normal en 2018. En revanche, si le non devait l'emporter, alors là, tous les jeux sont ouverts, mais ça sera très difficile pour Matteo Renzi, au moins dans un premier temps, de rester au pouvoir. Et je pense qu'il n'en aurait même pas intérêt, parce qu'il il aurait lui-même a laissé entendre qu'il n'accepterait pas de rester en place pour gouverner à la petite semaine, en quelque sorte. Et donc je pense que dans ces cas-là, si le non l'emporte, on peut s'attendre à une sorte de crise gouvernementale, avec des élections qui seront sans doute anticipées.
Et Alberto Toscano, si le nom l'emporte, grande instabilité politique en perspective, en un mot.
Bah, si le nom l'emporte, sans doute instabilité, sans doute crise de taux d'intérêt. Je pense pas que Renzi quitterait la vie politique, bien au contraire, mais sans doute il serait en difficulté, comme Eric le disait, pour continuer son travail de chef de gouvernement. Donc, crise de gouvernement, probable, elle sera anticipée, mais là, on arrive à un problème fondamental de l'Italie actuelle. Pratiquement, il n'y a pas de loi électorale. Alors, comment est-ce que vous faites des élections sans loi électorale? C'est bien bizarre. Alors, l'Italie a eu une loi électorale proportionnelle jusqu'au 93, ensuite une loi électorale qui mélangeait un système majoritaire sur un tour et un système proportionnel pour un quart de députés, et ensuite un système bizarre qui n'a pas marché, mais qui a été créé par Silvio Berlusconi en 2005-2006. Aujourd'hui, cette loi électorale berlusconienne a était en partie déclaré inconstitutionnel par la Cour, par le Conseil constitutionnel. Donc l'Italie doit créer une loi électorale. Renzi a fait approuver une loi électorale, mais lui-même a dit qu'il est prêt à la changer. Donc il faudrait, en cas de victoire du non, au moins un accord entre partis politiques pour créer, pour donner à l'Italie une véritable loi électorale. Mais là, dans l'atmosphère actuelle, dans le contexte de la polémique actuelle, je m'étonnerais qu'il y ait une majorité pour créer en Italie une loi électorale. D'où la dimension de la crise italienne actuelle, si dans le cas d'une victoire du non.
Dans le cas d'une histoire du nom, on l'a compris, Alberto Toscano, un flou qui n'aura rien d'artistique. Merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe, réalisation Guillaume Munier. Sur la page de l'émission Carrefour de l'Europe RFI, des infos sur nos invités et la possibilité de réécouter cette émission et toutes les autres d'ailleurs. Très pratique aussi les applis mobiles, mais gratuites de RFI. Je dis ça pour Matteo Renzi qui est un homme moderne. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Les Esquelles, que vous soyez à Rome, à Paris ou ailleurs dans le monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et tout suite, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir. Priorité.